C'est une grâce pour moi et mon épouse de pouvoir être invité dans différentes églises. Vraiment une grâce parce que on découvre différents microcosmes, différentes églises. Et à chaque fois, je viens dans une église et j'ai dit, j'aimerais leur pomper ça pour ramener à Moucron. Et j'aimerais leur pomper ça. En fait, je me vois plus comme une abeille qui butine à gauche à droite en disant, ah, ce matin, qu'est-ce que je vais pomper à l'église de Betsaleel? En disant, en ramenant à l'église de Moucron, bah, vous savez, à Betsaleel, ils font ça, c'est bien. Et ça m'amène à penser sur l'identité de nos églises locales. Et c'est un peu le message que j'aimerais vous partager ce matin. Puisque surtout dans notre monde protestant, on a différentes églises qui toutes ont leur identité propre, et je pense que c'est vraiment une richesse. Et des fois, certaines personnes se disent, ben, si l'Église est l'Église de Dieu, elle devrait être une, elle devrait être universelle, et elle devrait être plus uniforme que ce qu'elle est. Et moi, je me pose vraiment contre cette idée. Une raison simple, c'est que déjà à la maison, on a quatre garçons, on a quatre enfants, quatre garçons. Alors les gens, ils se disent, ah, toujours quatre garçons. Je dis non, le Seigneur nous a fait grâce, on aurait pu avoir une fille. Mieux vaut quatre garçons qu'une fille, frères et sœurs. Je laisse les filles aux autres, voilà. Je suis généreux, mais oui, des fois, quand mon épouse et moi, on voit des gens qui ont des familles nombreuses et qui ont quatre filles, on me dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens? Il y a des gens, ils sont éprouvés, quand même. Non, on a quatre garçons, mais chacun d'eux est vraiment particulier. Notre plus grand, c'est Timothée. Alors, Timothée, c'est le grand frère responsable, celui à qui on peut donner des responsabilités. Il a une bonne mémoire. Et alors, il a un grand sens de la justice. En ce moment, il a 7 ans et son expression favorite, c'est pas juste. Quand on le met au lit, quand on lui dit qu'il peut pas se resservir, qu'il a mangé assez, c'est pas juste. Hein, il a un grand sens de la justice, Timothée. Benjamin, le deuxième, c'est tout autre chose. Lui, c'est un petit bouchon, il est né avant terme, et donc c'est un petit méguerlot, mais alors il a un caractère énorme. Et il est entier, Benjamin. Quand ça va bien, ça va très bien, mais quand ça va pas, ça va vraiment pas. Après, on a Élisée, et Élisée, lui, c'est le rigolo de la famille. Peu importe ce qu'il fait, il nous fait rire, en fait. Il aime faire rire, et c'est un peu le clown de l'équipe. Et c'est comme si chaque enfant avait été une préparation pour le suivant. Parce que chaque fois, on monte quand même d'un stade. Et alors, le dernier, Josué, c'est un concept, frères et sœurs. C'est le casse-cou. Alors, c'est monsieur maman, et lui, c'est l'acrobate, mais alors indépendant. Quand il a décidé, il fait ce qu'il veut. Et je vous parle de ça parce que nos garçons ne se ressemblent pas pour notre plus grand plaisir. C'est trop génial, en fait, de les voir interférer les uns avec les autres, de pouvoir, je vais pas dire leur coller une étiquette, mais de remarquer leur capacité, leur corde unique. Et je pense que quand le Seigneur regarde son Église de manière universelle, mais en regardant au travers de cela les églises locales, il se dit la même chose. Ah, j'aime l'église de Betsaleel parce que j'y trouve là quelque chose que je trouve pas ailleurs. J'aime l'église de Moucron parce que j'y trouve là quelque chose que je trouve pas ailleurs. Et loin de dire, le Seigneur, oh, il devrait faire ça, il devrait pas faire ceci. Il se réjouit de l'identité propre de chaque assemblée. Et je suis persuadé comme vous que l'église universelle avec un grand E a reçu une mission général qui est annoncé par Jésus, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Mais je crois à côté de ça que chaque église reçoit une mission propre, une couleur qui lui est propre, et j'y vois déjà ça dès la Bible, dans l'Apocalypse, quand Jean écrit aux 7 églises de l'Apocalypse. Et ça va être un peu mon texte sur lequel je vais revenir ce matin. Et le titre de mon message, ce sera « Devenir une église qui répond à son appel ». Parce que je suis persuadé que chaque église reçoit de Dieu un appel. Et je me suis dit, ben, j'aimerais partager ça à l'église de Betsaleel, ici à Bondu. Alors vous connaissez ce texte de l'Apocalypse, hein, où bien évidemment beaucoup concerne la fin du monde, la fin des temps, mais où ça commence avec ce passage de 7 lettres envoyées à 7 églises de l'Asie mineure, donc de l'actuelle Turquie. On a l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, de Philadelphie, de Pergame, etc., etc. C'est le chapitre 2 et 3 d'Apocalypse. Et il y a un dénominateur commun. Pour chacune de ces 7 églises, on nous parle de l'ange de l'église, on nous y présente Jésus, ça finit avec l'affirmation que celui qui a des oreilles écoute. Mais il y a aussi des choses qui concernent vraiment chaque église locale. Et vous savez qu'une des lectures de ce livre de l'Apocalypse, c'est de voir que ces 7 églises, au-delà d'être 7 églises qui existaient au temps de l'apôtre Jean, ça pourrait être aussi cette image de l'Église, aussi bien sur l'histoire, dans l'histoire de l'Église, comme cette étape, mais aussi de manière géographique, comme les Églises dans le monde qui se reconnaissent plus dans une situation ou dans l'autre. Et chacune de ces Églises, l'apôtre Jean va mettre, reçu de la part de Dieu, va mettre le doigt sur des défis, sur des faiblesses, mais aussi sur des forces, sur des situations particulières à chacune de ces Églises. Et pour moi, je pense qu'on peut retirer 5 choses de ces lettres qui s'appliquent à toutes les églises, qui s'appliqueraient à cette église aussi. Et j'y vois comme les 5 doigts de la main. Vous savez, déjà, quand on est petit, on apprend leur nom. Alors le pouce, en général, ça va. L'index, on gère. Le majeur, ça va. Mais arriver aux 2 derniers, c'est plus difficile quand même. Quoi qu'il en soit, ces 5 doigts sont là pour assurer la force de la main et une force qui n'est pas proportionnelle, mais qui est exponentielle. Je veux dire par là que si vous supprimez un doigt, vous perdez plus qu'un cinquième de la force dans votre main. Imaginez, il ne vous reste plus que 2 doigts. On pourrait dire, 2, c'est presque 2,5, donc c'est presque la moitié. Non, on sait très bien que seulement 2 doigts, on a très 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 peu de force. Que la force de la main vient du fait qu'on a ces 5 doigts qui, chacun d'eux, permettent d'avoir de la force dans votre main. Et pour moi, les 5 particularités dont on va parler ce matin sont dans une église la même image. Si on use trop l'un, on va fatiguer ce doigt-là et voir si on le supprime carrément, l'église va perdre en impact. Je vous ai avec moi ?
Oui.
Ok, alors, on va commencer. Le premier, pour moi, point qu'on peut retirer, qui s'applique à chaque église locale, c'est de bâtir sur un héritage. Je vous lis ce que Jean écrit à l'église d'Éphèse, et vous connaissez sans doute ces versets. « J'ai cependant, dit Jean, enfin Jésus au travers de la plume de Jean, « j'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi, dit-il, d'où tu es tombé. Change d'attitude et reviens à ta conduite première. » Une église, quelle qu'elle soit, aussi jeune qu'elle soit, ne démarre pas de nulle part. Elle se bâtit sur un héritage. Même une jeune église comme l'église de Betsaleel, ça a été fondée en quelle année l'église de Betsaleel, Bruno ? En 62. Et vous êtes arrivé dans les bâtiments ici, en quelle année ? En 2012. Donc, sur l'échelle de l'histoire de l'église, même 62, ça reste très court. Et je pense qu'il y a vraiment eu aussi un vent de fraîcheur qui est arrivé quand vous avez investi ces locaux-là. Et même une église jeune, elle se bâtit avec un arrière-plan. Les gens qui l'ont fondée avaient un arrière-plan. Et je pense qu'on ne peut pas, et quand j'utilise le terme « peut », je veux dire aussi bien on n'a pas ni la permission, ni la capacité de se couper de l'héritage spirituel d'une église. Et j'ai remarqué que c'est souvent une tentation, pour ma part, que j'ai remarqué chez les jeunes leaders. Et on observe ça déjà dans la Bible, quand le roi Salomon meurt, c'est son fils Jéroboam qui est appelé à embrasser le trône. Et Jéroboam veut augmenter les impôts sur le pays d'Israël. Et les conseillers, qui étaient déjà les conseillers de son père Salomon, lui déconseillent cette stratégie en lui disant, tu sais, pour bâtir le temple et pour faire prospérer le pays, ton papa Salomon, avait déjà mis des impôts très lourds sur le peuple. Si tu augmentes encore la somme demandée au peuple, tu risques de tirer trop sur l'élastique, comme on dirait, et que la corde se rompe. Et Jéroboam ne sait pas trop quoi faire et il prend conseil auprès de ses amis qui sont des jeunes aristocrates qui ne connaissent pas l'exercice du pouvoir et qui vont faire titiller la corde de la dictature en disant « Mais enfin, c'est qui le roi ? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est eux ? Est-ce que c'est à eux de te dire ce que tu dois faire ou c'est à toi de leur dire ce qu'ils doivent faire ?» Et Jéroboam va plein de fougue, va dire « Oui, c'est vrai » et il va augmenter les impôts. Et ce que les sages conseillers de Salomon lui avaient dit va se produire, c'est que le pays va se scinder en 2. 10 tribus au nord vont faire sécession et seulement 2 tribus vont rester fidèles au roi Jéroboam. Ça deviendra le sud, le royaume de Juda, et les 10 tribus au nord deviendront le royaume d'Israël. Et je vous parle de ça parce que bâtir sur un héritage, c'est même pas, je vais dire, une obligation, c'est... Il n'y a pas d'alternative possible pour une église que de bâtir sur son héritage, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. De réfléchir comment est-ce que Dieu a posé les fondements de cette église, de l'assemblée locale, et de vraiment se dire que le Seigneur va jamais honorer quelqu'un qui veut arriver en chamboulant tout. Dieu ne va pas honorer cela, même si les intentions sont louables, Dieu ne va pas honorer quelqu'un qui veut tout changer. Oui, bien évidemment, chaque domaine et chaque église a des défis qui sont là et on peut amener l'église plus loin, mais ça demandera du temps, ça demandera de la patience. Et ce qui est surtout vrai dans les églises, qui n'est pas appliqué dans le monde du business, c'est que ça demandera de l'amour et de la bienveillance. Mon papa qui était pasteur disait souvent, marcher ensemble, c'est marcher au pas de celui qui va le plus lentement. Et ça, c'est extrêmement frustrant pour ceux qui veulent aller de l'avant, qui tirent, qui voient toujours plus loin et qui ont envie de prendre de la vitesse, de se dire pourquoi est-ce que les gens n'avancent pas plus vite? Mais le cœur du pasteur, d'un bon pasteur, d'un bon berger, c'est de dire on reste ensemble, même si c'est au prix d'une certaine vitesse de croisière. Amen. On reconnaît le pasteur qui dit amen. Bâtir sur l'héritage. Et je pense que, au-delà de s'adresser juste aux responsables de l'église, ça s'adresse à chaque responsable de secteur, que ce soit celui de la louange, de l'enfance, de l'aide sociale, de l'accueil, de se dire, ben voilà, qu'est-ce qui se fait déjà? Qu'est-ce qui s'est fait dans le passé? Et comment aller plus loin? Mais en bâtissant, pas en faisant table rase du passé, mais en bâtissant sur ce qui a déjà été posé. Et c'est aussi un appel, toujours, quand on reçoit une responsabilité, à soigner le passage de relais. C'est tellement important. Regardez ce que Moïse dit, Deutéronome chapitre 4, verset 9. Il parle au peuple. « Seulement, leur dit-il, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Moïse parle à ce moment-là à des gens qui ont connu la sortie d'Égypte, qui ont vu les 10 plaies, qui ont vu la manne dans le désert, qui ont vu les eaux de la mer Rouge s'ouvrir, et il leur dit, fais attention que ça ne se perd pas de génération en génération. Raconte-le à tes enfants et raconte-le à tes petits-enfants. Paul va même dire à Timothée, ce que tu as reçu de moi, l'enseignement que tu as reçu de moi, enseigne-le à d'autres qui eux-mêmes seront capables de le transmettre encore à d'autres. Et là, Paul prend soin d'établir 4 générations de responsables. Ce que moi, je t'ai appris à toi, transmets-le à d'autres qui eux-mêmes seront capables de transmettre encore à d'autres. Il y a une idée de continuité que Dieu veut pour son Église, pour qu'elle puisse bâtir sur son héritage. Amen. Alléluia. Je parle du deuxième point, qui est de recevoir une révélation particulière de la part de Dieu. Quand Jean écrit aux 7 lettres, à chaque fois il décrit Jésus d'une manière différente. À l'église d'Éphèse, il va dire « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » À l'église de Smyrne, « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » À Pergame, « Celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants, etc. etc. » À chaque fois, quand Jean écrit à une église, il fait une révélation de Jésus, mais qui est différente pour chaque église. Et c'est une réalité que Dieu, il est incommensurable, il est incompréhensible dans toute sa globalité. La Bible nous dit que on aura l'éternité pour l'admirer, pour essayer de le comprendre, et que même l'éternité ne suffira pas à admirer la totalité, toute la complexité de Dieu. Et donc, ce serait illusoire de croire que une église reçoit à elle seule la révélation totale, unique, entière de Dieu. Tout comme les auteurs bibliques, dans chacun de leurs livres, vont mettre en avant un aspect plus particulier de la personne de Dieu. Certains petits prophètes vont mettre en avant sa justice, d'autres ce seront sa grâce, d'autres ce seront sa sainteté, d'autres ce seront son amour. Mais aucun auteur, même dans la Bible, ne peut décrire en un seul livre toute la complexité de Dieu. Et je suis intimement convaincu que ce qui est vrai pour la Bible est vrai aussi pour chaque église. Chaque église reçoit une révélation particulière de la personne de Dieu. Regardez ce que Paul va dire aux Corinthiens. « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Et chaque église locale est appelée à souligner une facette de la personne de Dieu. Et je crois que dans certaines églises, ce sera la grâce. Et ce seront des églises qui seront particulièrement appelées à aller chercher les perdus, des gens qui vivent dans les pires situations dans leur vie. D'autres, ce sera de mettre l'accent sur sa sainteté. Ce sont souvent des églises alors qu'ils mettent le paquet sur la louange, où il y a une vie de louange très, très, très développée. Et je crois qu'il ne faut pas regarder à chercher à tout pouvoir expliquer. C'est impossible. Je pense que comme les églises de l'Apocalypse, Il faut pouvoir se dire, ben voilà, quelle est la facette de notre Dieu incommensurable qu'on veut mettre en avant ici, à bon Dieu. Amen. Je continue, parce que mon troisième point, forcément, il découle du deuxième point. On reçoit une révélation de qui est Dieu, et de ça va découler un appel particulier pour la vie de l'Église. Je vous lis ce que l'apôtre Jean écrit à l'église de Smyrne, ça c'est dans Apocalypse chapitre 2, verset 10. Il leur dit, n'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Alors si vous êtes pasteur et que vous attendez un message prophétique, c'est pas celui-là qui vous intéresse. Celui qui vous intéresse, c'est le Seigneur va faire grâce, il va y avoir une multiplication, il va y avoir beaucoup de gens qui vont rejoindre ton église. Pas un prophète qui vient vous dire en disant, n'aie pas peur mon frère, des souffrances qui t'attendent. C'est pas glamour, mais regardez comment est-ce que l'apôtre Jean continue. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Je connais pas bien l'église de Smyrne, en tout cas l'église du 1er siècle à Smyrne, mais il y a un personnage qui nous est connu par l'histoire de l'église, c'est Polycarpe, qu'on appelle Polycarpe de Smyrne, qui est né vers l'an 70 et qui est mort vers 155-167. Ça veut dire que à la rédaction des lettres de l'Apocalypse, qui sont arrivées dans son église, vu qu'il était à Smyrne, Polycarpe devait avoir une vingtaine d'années. Et il va être connu parce que ce sera un grand ministère apostolique, et il est aussi connu parce qu'il va mourir en martyr, comme beaucoup de ministères de l'époque. Mais le récit de sa mort nous est raconté, et on raconte qu'il était devant un proconsul romain qui le torturait et qui lui ordonna, pour avoir la vie sauve, de maudire le Christ. Et écoutez ce que Polycarpe va répondre. Il va dire, il y a 86 ans que je le sers et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé ? Je répète, il y a 86 ans que je le sers, il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé ? Alors je ne sais pas de quelle mort vous rêvez, si vous pouviez la choisir. J'imagine qu'il y en a très peu qui choisiraient de mourir martyr. Moi personnellement, quitte à choisir, je me dis mourir pour mon Seigneur, est-ce que ce n'est pas la plus belle des morts ? Mais ce n'est pas celle que je vous souhaite, frères et sœurs. Quoi qu'il en soit, je me dis, est-ce que je serais capable, comme cet homme, de dire devant mes bourreaux, je sers le Christ parce qu'il m'a sauvé, il est mon roi, jamais je ne pourrais dire quelque chose de mal contre lui. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'au moment où Polycarpe il va déclarer cela à ses bourreaux, il a en tête ce qu'il a entendu 70 ans plus tôt, quand l'apôtre Jean a écrit « N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici le diable a jeté plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. » Est-ce que toutes les églises au temps de l'Apocalypse étaient destinées à ça ? Non, je ne crois pas. Mais force est de constater qu'il y avait, je n'ai peut-être pas appelé ça une grâce particulière, mais un appel particulier sur la vie de cette église de Smyrne, d'oser aller jusqu'à donner sa vie pour l'évangile, pour la gloire de Dieu. Et la révélation dont je parlais juste avant dans mon point précédent, la révélation qu'on reçoit de Dieu, elle va finalement teinter l'appel de notre assemblée. C'est ce qui va donner des églises plus sociales comme les églises de l'armée du salut où leur appel particulier, ça va être d'aller chercher les gens qui vivent dans la pauvreté pour leur annoncer l'évangile. Mais William Booth, qui a lui-même fondé ces églises, il disait « Avant d'annoncer le salut, on a besoin de donner de la soupe aux gens qui meurent de faim et du savon aux gens qui vivent dans la saleté. Et après seulement, on leur apportera le salut. » Est-ce que c'est l'appel de toutes les églises ? Non, je ne le crois pas. D'autres églises ont été interpellées par le nombre de nations qui mouraient sans entendre l'évangile. Et ils ont mis un point d'honneur à former des missionnaires et à envoyer des gens. Alors que dans beaucoup de nos églises, le but c'est de remplir au maximum, d'avoir le plus de gens là dans ces églises-là. Dès qu'ils arrivaient, on les formait, on les envoyait à l'autre bout du monde pour aller annoncer l'évangile. Est-ce que c'est l'appel de toutes les églises ? Non, je ne le crois pas. Tout comme ce n'est pas l'appel de toutes les églises de développer, comme les méthodistes, une étude méthodique de la parole de Dieu. Je pense que chaque église reçoit un appel particulier. Et c'est une richesse à mes yeux. C'est vraiment une richesse. Et quand on garde les lettres qui sont dans l'Apocalypse, on voit qu'à aucun moment, Dieu ne fait de comparaison. Dieu ne dit pas « fais comme elle, fais comme cette église ». Non, tout comme aucun parent digne de ce nom ne compare ses enfants. On ne fait pas ça. Et dans la Bible, peu qui l'ont fait, les parents qui l'ont fait, on a vu ce que ça a donné plus tard en semant l'inimitié entre des frères et puis après entre des générations en générations. Et là, Dieu ne fait pas ça, il ne compare pas ses églises. Et je suis toujours assez mal à l'aise quand j'entends des critiques de la part d'une église. Quand quelqu'un vient en disant « Ah, j'ai été dans cette église, ils font ceci, ou ils font trop ceci, ou ils font pas assez cela. » Ou quand on... Pareillement, quand on critique l'Église dans laquelle moi-même je suis établi, pas que je suis contre la critique, c'est juste, si l'Église est l'épouse de Jésus-Christ, je ne sais pas vous, mais moi, je ne supporte pas qu'on dise du mal de mon épouse. Pourtant, elle a des défauts, hein. Plus que moi par ailleurs. Enfin, moi je trouve forcément, elle dira sans doute le contraire. Mais quoi qu'il en soit, même si je suis conscient de certaines de ses faiblesses, de certains de ses défauts, je ne supporte pas que même si ce soit vrai, quelqu'un me le dise. Parce que c'est mon épouse, parce que je l'aime au-delà, plus encore que moi-même, et que même si c'est vrai, mon amour pour elle couvre même ses défauts, même ses manquements, même ses faiblesses. Et Jésus ne peut pas supporter qu'on critique son Église. Parce que la Bible nous dit, lui, la voit sans défaut, sans tache, sans ride. À nous, on est doués pour voir les taches et les rides et les imperfections de nos Églises, mais Dieu, lui, quand il les regarde, alors que lui, il a l'omniscience, il les voit sans tache, sans rides. Et je pense que c'est une richesse dans notre monde protestant, je le disais, d'avoir des églises qui sont aussi diversifiées. Parce que ça permet alors à tout à chacun, à chaque enfant de Dieu, de trouver l'église, le terreau fertile dans lequel il pourra prendre racine, dans lequel il va pouvoir s'épanouir. Et vous connaissez ce genre de chrétiens qui papillonnent d'église en église, il y en a dans partout. Et ils arrivent dans votre église en disant oh, « c'est bien pasteur, hein, ton église j'aime bien, mais... » Ah, tu sais, dans l'autre église, ils font ça et ce serait bien que tu fasses ça aussi. Ou dans telle église, ils ont compris ça et on sent qu'ici, vous n'avez pas encore compris ça. En fait, quand vous creusez un petit peu, vous comprenez que toutes les églises dans lesquelles il a été, il a finalement été rejeté, viré, parce qu'il faisait des misères. Et dans chaque église où il va, il critique les autres églises où il a été. Moi, j'aimerais dire, quand c'est comme ça, ok, s'ils font ça, très bien pour eux, que le Seigneur les bénisse. À Moucron, on a déjà eu beaucoup de gens qui sont venus, ils disent, ah, la louange, ça va trop fort. Ça va trop fort à Moucron. C'est une chouette église, hein, mais la louange, elle va trop fort. Dans telle église, on la met moins fort et c'est mieux. Eh ben, écoute, mon frère, si tu veux mon GPS pour te trouver le chemin de cette autre église, vas-y. Ici, on a une louange forte et on l'assume. Je te promets une chose, c'est qu'on ne la mettra pas au point qu'on va abîmer tes oreilles. Et j'entendais un jour un pasteur qui disait, et il avait une soixantaine d'années, il disait, vous savez, les gens qui se plaignent du volume sonore dans notre église, qui disent que ça va abîmer leur ouïe, s'ils sont comme moi, qu'ils ont grandi avec Led Zeppelin, ne me faites pas croire que ça n'a pas abîmé leurs oreilles avant la louange dimanche matin. Mais c'est certain de dire, on ne doit pas faire la politique de l'autruche et dire comme Danny Boone, je vais bien, tout va bien. Il faut porter un regard réaliste sur nos églises. Mais force est de constater quand quelque chose est le fruit d'une réflexion, d'un appel, il faut l'assumer. Il faut l'assumer en tant qu'église et dire, oui, ça fait partie de notre identité. Ça fait partie de notre identité. Je continue parce que si chaque église doit bâtir sur son héritage, reçoit une révélation et un appel particulier, je pense que chaque église aussi, et ça on n'aime pas l'admettre, mais c'est une réalité, chaque église justement a ses défis, a ses faiblesses. Regardez, et c'est sans doute, elle est tristement connue, l'église de Laodicée, regardez l'avertissement qu'elle reçoit de l'apôtre Jean. « Puisque tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, et tu ne te rends pas compte qu'en fait tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. » Ça, il faut l'encaisser quand même. Pour chaque église, Jésus, au travers de la plume de Jean, va mettre le doigt sur des défis, sur des faiblesses de chacune d'elles. Si toutes les églises locales, elles ont leur richesse, leur qualité, leur force, toutes aussi ont leurs défis. Et souvent, c'est interpellant de voir ça, c'est que souvent, les faiblesses d'une église sont des qualités qu'elle possède, mais poussées à l'extrême, poussées trop loin. Des églises qui ont une telle structure pour les rendre efficaces, qui finalement tuent la vie de l'esprit, où il n'y a plus aucune spontanéité possible, où les cultes sont millimétrés. Alors oui, c'est efficace, oui, on commence à l'heure, on finit à l'heure. Il y a des chrétiens qui aiment bien ça, moi c'est pas ma priorité. Mais du coup, avec le danger de ça, c'est d'avoir des églises rigides, où le Saint-Esprit n'a plus rien à dire parce que tout le programme est établi à l'avance. des églises où il y a une telle insistance sur la justice, sur la sainteté de Dieu, où il n'y a plus aucune grâce. Ce sont des églises grands frères dans la parabole du fils prodigue, où même les pécheurs qui viennent se convertir, non, on ne peut pas les accepter, ils puent le cochon. On ne peut pas. Et pourquoi ? Parce qu'on met tellement l'accent sur la sainteté qu'il n'y a plus de place pour la grâce. Ou un autre côté des églises où on est tellement permissif que les gens font ce qu'ils veulent. Il ne faut surtout pas aller s'ingérer dans leur vie privée. Hein, non, on gère ce qui se passe le dimanche matin de 10h à midi, ça on a le droit. Mais ce qui se passe le reste de la semaine, non. Alors si le pasteur il a malheur de réagir sur un post que vous avez mis sur Facebook, oh, intrusion dans ma vie privée. Il n'y a rien de plus privé que Facebook, on le sait tous. Et c'est une réalité. Le pasteur, il est là pour ça. C'est un berger, il est là pour dire, écoute, mon frère, ma sœur, telle situation dans ta vie, le Seigneur, il t'appelle à mettre de l'ordre. Tel trait de caractère, qu'on touche à ce que je fais, ok, mais pas qui je suis, mon caractère, j'en suis fier. Non, la Bible de Dieu nous parle de patience, de joie, de bienveillance, de bonté, de maîtrise de soi. Et donc, bien évidemment, les responsables de l'Église, quand ils vont voir un frère ou une sœur en disant, écoute, il y a tel aspect de ta vie, tu dois travailler dessus. C'est pas qu'ils vous aiment pas, c'est qu'ils font leur job. Ils font ce pour quoi ils sont appelés par le Seigneur à faire. Bref, dans toutes les églises, il y a, je crois, des faiblesses, des défis à analyser. Regardez ce que Pierre, il écrit. « Soyez sobres, dit-il, veillez, et c'est un verset que vous connaissez, « votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » Et c'est une réalité pour chaque individu, pour chaque enfant de Dieu, où l'adversaire rôde pour dévorer les enfants de Dieu, mais c'est une réalité aussi pour les églises. Le diable cherche dans quelle église il y a des faiblesses, des défis pour mettre la pagaille, pour semer la zizanie, pour semer le trouble. Vous connaissez cette expression « semer la zizanie » ? Vous la connaissez, j'imagine. Vous savez d'où elle vient ? Elle vient de la Bible. Vous connaissez la parabole de l'ivraie de l'ennemi qui vient semer des mauvaises herbes dans le champ de Dieu. Eh bien, le mot grec des mauvaises herbes, c'est zizania. Et donc, l'expression semer la zizanie vient en fait de là. Qui est celui qui sème la zizanie par excellence ? C'est le diable. Et il vient la semer dans l'église afin de faire fermer les portes. Et vous allez dire, à quoi ça sert d'être conscient de nos défis, nos faiblesses ? Eh bien, je crois que comme un enfant de Dieu doit être conscient de ses défis, de ses faiblesses, pour éviter d'être dévoré tout cru par le diable, eh bien, les églises aussi. On a des frères et des sœurs qui savent qu'ils sont en lutte contre l'alcoolisme, contre la colère, contre les tentations sexuelles, et ils savent que c'est chez eux une corde sensible sur laquelle ils doivent veiller. Et de ça, ils doivent être particulièrement vigilants sur ça. Bien évidemment, Dieu leur a acquis la victoire, mais comme une victoire de guerre. Mais il y a des batailles que chaque jour, l'enfant de Dieu est amené à mener. Et je pense pour les églises, c'est la même chose, être consciente, attention, il faut qu'on fasse attention à ça. Ça permet déjà d'être qu'une faiblesse devienne finalement une force. Et donc de dire, comme l'apôtre Paul, c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. Amen. Et une dernière chose avec laquelle j'aimerais terminer ce message, c'est d'être conscient aussi de ses forces. De là où on est bon. Regardez ce que Jean écrit à l'église de Thyatire. « Tenez fermement ce que vous avez. » Il ne dit pas ce que vous aurez ou ce que vous avez perdu. Non, « Tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. » Certaines églises, sans qu'on sache trop pourquoi, développent une faculté, une facilité dans tel ou tel domaine. Un peu comme un enfant qui naturellement va se montrer doué dans tel sport ou dans tel art, dans la musique par exemple, ou dans telle matière à l'école. Et des fois, je suis impressionné de voir des enfants qui sont doués en musique et où aucun des parents n'est musicien. Et qui sont plus talentueux que d'autres qui travaillent autant qu'eux. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je ne sais pas, frères et sœurs. Dieu fait grâce à qui il veut. Et certains enfants de Dieu sont plus doués naturellement pour certains domaines que d'autres. Est-ce que c'est injuste? Allez dire ça à un Dieu de justice, que c'est injuste. Je ne sais pas ce qu'il va vous répondre, mais c'est une réalité. Et c'est la même chose dans nos églises locales. On découvre que certaines églises locales sont particulièrement douées pour accueillir, pour mettre les gens à l'aise, pour faire des câlins. Et d'autres églises ne possèdent pas ça. Ils sont incapables. Moi, vous savez, j'ai un frère qui me ressemble énormément. Enfin, certains diront que c'est moi qui lui ressemble, puisqu'il est mon aîné. Et c'est vrai qu'on se ressemble très fort. C'est même arrivé très rarement que nos épouses de dos nous confondent, pour vous dire. Et alors, bien des fois, on a des situations amusantes et cocasses grâce à ça. On fréquente tous les deux la même friterie. Et alors, des fois, j'arrive à la friterie et je sais que mon frère est passé juste avant parce que le serveur, il me regarde genre, mais t'es déjà venu il y a une demi-heure, toi ? Et une fois, il y a même un serveur qui m'a dit, ah, vous aviez encore faim ? Ouais, c'est ça. Il n'avait pas remarqué qu'il y en avait un qui était plus vieux, un peu plus bedonnant, c'est mon frère. C'est... Quoi qu'il en soit, on se ressemble très fort, mais on est quand même différents. Et là où Pierre est vraiment doué, c'est justement de mettre les gens à l'aise. Et alors, à l'église de Moucron, il aime bien faire ça, entre la louange et la prédication, faire les anniversaires. Et alors, il prend un temps phénoménal à souhaiter les anniversaires. Des fois, il prend un quart d'heure pour souhaiter les anniversaires. Et il n'y en a que deux, hein, des fois. Mais il est doué. Et un jour, il est invité à prêcher, et donc dans une autre église, et donc il me dit, n'oublie pas de mettre les gens qui viennent pour la première fois à l'aise et de souligner les anniversaires. Ok. Et donc je monte, je me dis, je vais faire mon Pierre. Et ça a été un fiasco total. Hein. Mais je suis vraiment mauvais, moi, pour mettre les gens à l'aise. Je suis plus doué pour les faire rire que lui, mais pour mettre les gens à l'aise, pour les honorer, pour accueillir les nouvelles personnes, franchement, je suis très, très, très mauvais. Et je vous dis ça parce qu'on se ressemble très fort, mais lui, il est bon là-dedans, et je sais que je suis meilleur que lui dans d'autres domaines. Et lui-même le reconnaîtra. Et moi-même, je reconnais qu'il est meilleur que moi dans d'autres domaines. Et c'est la même chose pour nos églises locales. Et il faut pouvoir se dire, dans quoi est-ce que le Seigneur il nous a donné des dons et des talents ? Dans quoi est-ce qu'on est talentueux ? Pour pouvoir investir de ça. Je ne sais pas si vous connaissez, j'aime bien en parler, la loi de Pareto. Pareto, c'était un sociologue, un économiste. Et il a mis en avant ce qu'on appelle la loi de Pareto, de dire, très souvent dans tout ce qu'on fait, 20% de notre énergie bien placée vont apporter 80% de résultats. Et inversement, 80% d'énergie, de temps investi dans le mauvais secteur va rapporter seulement 20%. Et selon lui, ça s'appliquait partout. Il disait, dans notre garde-robe, c'est pareil, il y a 20% des vêtements qu'on met 80% du temps. Alors, certaines légendes disent qu'étant un petit peu macho, il rajoutait, et pour les femmes, ça descend même à 5% de ce qu'il y a dans la garde-robe. Mais ça, c'est lui qui disait ça, moi je ne le soutiens pas. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est une vérité que dans nos églises, on devrait être conscient aussi. Et de dire, quels sont les 20% dans lesquels le Seigneur nous a rendus doués, talentueux, capables, dans lesquels en investissant, et je suis très concret, en investissant peu de moyens humains, financiers, en énergie, en temps, où le Seigneur il montre qu'il est avec nous parce qu'il y a tout de suite du résultat. Et je pense à nouveau que ça concerne les responsables. Et vous allez dire, il ne parle que aux responsables de l'Église. Non, je parle aux responsables de l'Église, mais à chaque personne impliquée dans l'Église, dans son secteur, de réfléchir pareillement. Parce que vous savez, frères et sœurs, de la louange, il y a ça dans toutes les Églises. De l'occupationnel, de s'occuper des enfants, prendre soin des enfants, c'est pareil dans toutes les Églises. Dans toutes les Églises, il y a l'aide sociale, dans toutes les Églises, il y a l'accueil. Mais qu'est-ce qui fait que dans cette Église ici à Bondu, c'est particulier ? Réfléchir, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que le Seigneur nous a confié de particulier dans lequel on peut exploiter. Pas montrer qu'on est les meilleurs, mais montrer qu'on est différent. Montrer que dans notre Église, on veut vivre les choses de telle façon. Amen. J'aimerais terminer mon message par vous raconter une petite anecdote que j'aime beaucoup. Celle d'un jeune homme qui décide de déménager et il arrive dans une ville et alors un vieux monsieur est assis aux portes de la ville et lui dit « Ah, mon ami, je viens m'établir dans cette ville. Est-ce que vous pourriez me dire comment sont les gens de cette ville ?» Et cet homme lui dit, comment étaient les gens de la ville d'où tu viens ? Oh, c'était méchant, malveillant, désagréable, égoïste. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis parti, j'en pouvais plus, et c'est pour ça que j'aimerais venir ici. Et l'homme, il dit, désolé mon ami, mais ici les gens sont pareils. Et donc cet homme se dit, ok, je vais aller m'établir dans une autre ville. Et dans la même journée, un autre jeune homme arrive en disant au même homme, « Ah, monsieur, je viens m'établir dans cette ville, est-ce que vous pourriez me dire comment sont les gens de cette ville ?» Et alors il dit, comment ils étaient les gens de là où tu viens ? Ah, il dit, c'était merveilleux, les gens, ils étaient bienveillants, ils étaient ouverts, j'avais plein d'amis, vraiment, je pars avec le cœur gros, et c'est difficile pour moi de les quitter. Et alors cet homme, au bord du chemin, il dit, dans cette ville, ils sont exactement pareils. Et donc, il rentre tout joyeux. Et un passant qui était là, qui avait vu un petit peu ce cinéma, il va voir le vieil homme, il dit, mais alors, tu perds la boule ou quoi ? À l'un, tu dis, ils sont horribles, à l'autre, tu dis, ils sont merveilleux, faudrait savoir. Il dit, tu sais, la morale de tout cela, c'est juste, l'être humain va toujours trouver ce qu'il cherche. Et ce qui est applicable à l'échelle d'une ville l'est tout autant dans une église locale. Si vous cherchez dans toutes les églises du monde des manquements, des faiblesses, des gens qui sont pas encore assez bons, qui sont pas aussi bienveillants que ce que vous l'espérez, vous allez les trouver. Par contre, si dans l'église dans laquelle vous êtes, vous cherchez un endroit où grandir, un endroit où épanouir votre relation avec le Seigneur, un endroit où vous investir, vous trouverez ça ici, j'en suis convaincu. Et parce que finalement, c'est pas tant, ça dépend pas tant de l'église dans laquelle vous êtes que de votre attitude de cœur, en fait, de notre attitude de cœur. Et je voulais vous partager ce message parce que c'était l'occasion pour moi de visiter une église, de vous encourager à pouvoir trouver comment bâtir sur l'héritage qui est ici à Bondu. Comment recevoir une révélation particulière de Dieu et accueillir l'appel que le Seigneur y met sur votre cœur. Comment aussi pouvoir identifier vos faiblesses et investir dans les forces, dans les dons et dans les talents que le Seigneur vous a donnés. Que ce soit vraiment pas juste une réflexion des responsables, mais une réflexion de tout un chacun, puisque l'Église, c'est pas ces bâtiments, l'Église, c'est vous. Vous êtes des pierres vivantes qui constituez l'Église de bon Dieu. Quand le Seigneur regarde l'Église de bon Dieu, il regarde pas ce bâtiment, surtout quand il est vide, quand vous n'y êtes pas. L'Église de bon Dieu, c'est vous. C'est chaque pierre vivante qui la constitue. Amen. Alléluia. J'aimerais prier et terminer par la prière et après laisser la place à la suite. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ? Alléluia, Seigneur. Oui, mon Dieu, je veux vraiment te rendre gloire, te bénir et te remercier pour cette belle église, cette belle assemblée que tu as voulu, toi, ici à Bondu. Je te remercie parce que comme on le disait juste avant, l'Église, ben, c'est chacune de ces pierres vivantes qui est là. Et je veux vraiment proclamer, Seigneur mon Dieu, encore en ce début d'année 2020, des bénédictions, aller de gloire en gloire, de progrès en progrès pour cette Église ici à Bondu. Je veux proclamer que ce que tu as à cœur pour cette Assemblée, pour l'année 2020, va pouvoir se réaliser. Que les promesses, les bénédictions, les moments de victoire vont être vécues et vont être savourées pendant cette année, Seigneur Jésus. Je veux vraiment te demander de donner à tout à chacun de la sagesse, du discernement pour pouvoir investir dans les dons et dans les talents que tu as mis dans cette église, Seigneur Jésus. Qu'ils puissent, comme tu le disais à l'église de Smyrne, les garder jalousement. Seigneur mon Dieu, que tu puisses continuer à leur permettre de bâtir sur l'héritage qu'ils ont reçu. À grandir, Seigneur mon Dieu. Vraiment, je te loue, je te remercie pour cette église et je veux appeler ta bénédiction tout particulièrement sur Bruno, sur Maryse, sur les différents responsables de cette assemblée, en te demandant de les remplir de sagesse, de discernement, mais aussi de renouveler leur force, Seigneur Jésus. De renouveler leur force physique, morale, spirituelle, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses trouver ici une église qui, d'un seul corps, construit des remparts autour de ses responsables, Seigneur mon Dieu. Oui, je veux te rendre gloire, te bénir pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras encore. Merci pour les nombreuses personnes qui vont être bénies par cette assemblée, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Amen. Amen.